Nous sommes dans le cadre d'un séminaire, c'est une recherche qui est encore en cours et qui voilà, appelle des remarques de votre part. L'idée, c'est vraiment d'échanger à partir des résultats que je vais vous présenter. Au second XXe siècle, et de manière plus générale, toutes les trajectoires militantes de défense de la nature le montrent, l'éducation est un facteur déterminant. Dans leur récit de vie, les militants et les militantes de la protection de la nature mentionnent toujours les livres et les périodiques qu'ils ont lus dans leur jeunesse et qui ont aiguisé chez eux une sensibilité pour la faune et pour la flore. Ainsi, Rachel Carson, donc l'auteur de Printemps silencieux en 1962, auteure américaine de Printemps silencieux en 1962, a été initiée, dit-elle, à l'observation naturaliste et à la protection des ressources naturelles par le mouvement d'éducation populaire Nature Study. Jean-Pierre Raffin, ici en France, président d'honneur de France Nature Environnement, qui est né en 1937, raconte comment, réfugié en Haute-Loire, puis en Savoie durant la Seconde Guerre mondiale, ses parents peintres l'ont initié à l'observation des insectes et l'ont sensibilisé aux beautés de la nature, dont il s'est ensuite délecté dans la collection de poches que vous avez sous les yeux, collection donc des beautés de la nature éditée par Delachaux et Nisley à partir de 1937 dans une approche naturaliste, hein, de connaissance donc de la faune. De la même manière, Hervé Kempf, que vous connaissez peut-être, qui est le fondateur du journal Report Terre, qui lui est né une vingtaine d'années plus tard, en 1957, raconte comment dans sa jeunesse le magazine La Vie des Bêtes, dont vous avez ici une couverture, eh bien comment la Vie des Bêtes a baigné son enfance et là encore initié chez lui le goût de la nature. La Vie des Bêtes, c'est un magazine qui dans sa première mouture est fondé en 1951. Mais ici, vous voyez, déjà, on peut établir une comparaison entre ces deux couvertures. Hein. On a une représentation d'un petit faon ici dans ce numéro de 1964 dans la prairie, dans une prairie verdoyante. On a ici une approche qui n'est plus une approche naturaliste, hein, de connaissance au sens des sciences naturelles de la faune, mais une approche beaucoup plus sensible de protection des animaux et aussi de prise en compte de leur sensibilité justement à ces animaux. Bien, alors pourquoi s'intéresser aux motivations des acteurs et des actrices à s'engager pour la cause de la nature ? Cela correspond à une démarche méthodologique qui est la mienne, qui postule l'extrême diversité de ce mouvement social, le mouvement environnemental. Il n'est pas structuré par un parti politique, hein, vous allez me dire, le Parti des Verts qui est créé en 1984 existe bien, oui, mais il n'est pas le reflet de ce mouvement social, loin s'en faut. C'est un mouvement qui n'est pas représenté par une association, ni par une ONG, ni par une institution, mais par une myriade d'entre elles. Et donc, l'approche historiographique des mouvements de défense de la nature nécessite une grande prudence méthodologique et appelle une approche davantage culturaliste que politique, une approche par les sensibilités. La notion de sensibilité et l'approche par les sensibilités permet en effet de se situer en deçà de la sphère politique institutionnelle à l'échelle, je cite ici Jean-François Sirinelli dans un ouvrage d'histoire politique, hein, l'histoire des droites en France, mais je vais justifier cette citation. Donc ça permet de se situer à l'échelle des acteurs qui, je cite, animent la vie de la cité par leur travail, leurs pensées, leurs sentiments ou leurs choix d'existence. Nous sommes donc dans une démarche d'histoire résolument sociale et culturelle, et c'est précisément de ce pan de la recherche que l'histoire politique s'enrichit au début des années 1990, et dans l'histoire des droites en France, tout le troisième volume est précisément consacré à l'histoire des sensibilités politiques. La sensibilité environnementale mérite donc à son tour une enquête, du moins c'est ce que je crois. Et au cœur de cette sensibilité, il y a un regard critique, voire une remise en cause de l'action humaine sur son environnement. Et donc cette sensibilité ne s'exprime pas simplement dans des discours politiques, mais elle habite l'ensemble des pratiques sociales, publiques et privées. Donc l'éducation, l'alimentation, la manière de se vêtir, la littérature, les arts, la science, la religion, la culture de la terre, les pratiques corporelles, l'hygiène, etc. Et donc cette sensibilité environnementale n'est pas enfermée dans une famille politique, et au contraire, elle se déploie sur l'ensemble de l'échiquier politique, de l'extrême gauche, avec par exemple les communautés naturistes, anarchistes du début du XXe siècle, jusqu'à l'extrême droite, avec les mouvements, par exemple, certains courants de l'agriculture biologique, hein, représenté par exemple par le courant de Raoul Lemaire, implanté donc dans la région angevine, et Raoul Lemaire qui a été député poujadiste. Voilà, donc au cœur de cette recherche sur les sensibilités environnementales, on revient sans cesse à interroger la relation entre les sociétés humaines et la nature, entre guillemets, parce que, je le répète, la nature n'est jamais autre chose qu'une notion, une représentation changeante selon les époques et les cultures. À l'époque contemporaine, les motivations à protéger la nature peuvent être rangées, selon moi, dans trois grandes familles. Et je vous les présente parce qu'on va les retrouver et on va les voir interagir dans cette histoire de l'éducation à la nature. Première sensibilité, c'est la sensibilité naturaliste qui domine l'histoire de l'éducation à la nature depuis le XIXe siècle. Elle réunit cette sensibilité naturaliste les scientifiques et les amateurs qui observent, étudient, protègent les espèces animales et végétales. Au moins le XVIIIe siècle, enfin on peut s'interroger, enfin voilà, le métier de naturaliste, les premières mentions de cette activité remontent au XVIe siècle. Donc en France, cette sensibilité naturaliste est animée en particulier par le Muséum national d'histoire naturelle, qui en est le foyer central. Lui est rattachée la Société nationale de protection de la nature, héritière de la société d'acclimatation, qui a été étudiée par notre collègue Rémi Luglia. À l'époque qui nous intéresse ici, hein, au second XXe siècle, ces grands professeurs, Roger Heim, Théodore Monod, Jean Dorst, engagent des actions de protection de la nature à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle mondiale, à travers l'Union internationale pour la protection de la nature, qui est créée en 1948. Cette sensibilité naturaliste, c'est également la dominante du réseau d'associations de protection de la nature, un réseau d'associations locales et régionales, qui se fédère en 1968 dans la FFSPN, la Fédération française des sociétés de protection de la nature, qui justement voilà, regroupe ces différentes associations locales. Autre sensibilité que l'on retrouve dans cette histoire de la protection de la nature depuis le XIXe siècle, c'est la sensibilité naturiste. Elle est l'héritière des mouvements européens, de ce qu'on appelle le Lebensreformbewegung, hein, le mouvement de réforme des modes de vie, qui est plus implanté dans les pays germanophones qu'en France, mais qui a des déclinaisons en France. Et qui réunit des acteurs qui expérimentent, souvent à l'échelle locale, parfois à l'échelle de communauté, des alternatives alimentaires, vestimentaires, sportives, hygiéniques, des alternatives donc de mode de vie, au nom d'un retour à une harmonie supposée originelle avec la nature, une nature largement mythifiée, hein, évidemment. Cette sensibilité met en jeu des questions de santé et d'hygiène de vie et la retrouve dans les courants faisant la promotion de l'agriculture biologique, dans certains courants d'éducation à la nature, mais aussi dans les courants de lutte contre l'énergie nucléaire. Enfin, dernière sensibilité, c'est la sensibilité esthétique et contemplative pour les paysages. Qui va être à l'origine notamment de la création des séries artistiques de Fontainebleau au début du Second Empire. C'est cette sensibilité donc pour la beauté des paysages, qu'il s'agit donc de préserver des effets pervers de la modernité. Et cette sensibilité donc va donner naissance à la Société pour la protection des paysages en 1901, mais elle est aussi dominante dans des associations de tourisme qui naissent à la fin du XIXe siècle, hein, le Touring Club de France, le Club Alpin de France. Et c'est cette sensibilité qui domine la législation en France pour la protection du patrimoine naturel. Voilà. Donc, entre 1945 et les années 1990, l'ensemble de ces acteurs, dans des milieux souvent compartimentés, l'ensemble de ces acteurs fait porter sa réflexion sur un levier majeur qui est celui de l'éducation, hein, à la fois à l'école et en dehors de l'école, hein, donc l'éducation à la fois scolaire et populaire. Et donc, ces acteurs, avec ces sensibilités variées, développent un panel d'activités, de publications, de slogans, d'expositions, de films pédagogiques en ce sens. Et ce sont autant de sources pour l'historien. Et une des principales mutations dans cette histoire de l'éducation de la nature qu'on va voir ici, c'est le passage d'une éducation à la nature dominée par une exigence érudite naturaliste vers une éducation à l'environnement qui est empreinte d'une dimension militante, hein, de prise en charge des problèmes de pollution, d'atteinte portée aux ressources naturelles, etc. Cette histoire de l'éducation à la nature a été investie par les sciences de l'éducation qui ont dégagé trois grandes familles d'initiatives d'éducation à l'environnement à partir de 1945 qui correspondent précisément à ces trois grandes sensibilités que l'on a pu dégager donc de l'histoire de la protection de la nature et qu'on va évidemment croiser ici. L'éducation au sujet de l'environnement, c'est-à-dire la nature comme pôle d'observation, hein, on apprend à la connaître, à connaître les milieux, la faune, la flore, hein, c'est l'approche naturaliste la plus ancienne. L'éducation dans l'environnement, c'est-à-dire qu'on apprend au contact de l'environnement, on crée un lien perdu entre l'individu et son environnement, avec le postulat selon lequel le retour à la nature fait du bien à l'enfant, surtout dans une société transformée par l'urbanisation, l'industrialisation. Et donc l'idée qu'il y aurait eu rupture d'un lien originel entre les sociétés humaines et la nature et qu'il faudra restaurer. Et puis troisième grande famille d'initiatives, c'est l'éducation pour l'environnement et donc avec le postulat que les enfants on doit inculquer aux enfants la nécessité de résoudre des problèmes environnementaux dans une démarche civique de défense de l'environnement. Et c'est vraiment la dominante et la nouveauté des années 1970. Donc je vous propose d'insister justement sur cette bascule des années 1970, en essayant d'être concise, de vous montrer justement comment est-ce que tous ces héritages du 19e siècle, eh bien finalement sont remises en cause par des enjeux nouveaux dans les années 1970 et essayer de tirer les conséquences de tout ça, de voir comment ces bouleversements finalement et ces innovations sont institutionnalisées dans les années 1980-90 et avec quels effets. Voilà, donc dans un premier temps, selon un plan chronologique, je voudrais revenir sur ces traditions naturalistes et naturistes qui dominent l'éducation à la nature après 1945 jusqu'aux années 68, en les classant donc selon la catégorie que je vous ai présentée en deux grands courants. Le courant naturaliste où on apprend à connaître et à protéger la nature, et le courant plutôt naturiste où ce sont toutes les initiatives où on essaie de tirer les bienfaits du plein air, puisque c'est comme ça que les activités à l'extérieur sont baptisées à partir du Front populaire. Donc, apprendre à connaître et à protéger la nature, c'est l'impératif qui domine les mouvements de protection de la nature après-guerre. Des mouvements de protection de la nature qui sont vraiment les foyers de l'éducation à la nature dans une perspective naturaliste. Il y a plusieurs échelles de mobilisation et de fédération des initiatives en faveur de la protection de la nature. À l'échelle française, la Société pour la protection des oiseaux existe depuis 1912, je vais y revenir. D'autres associations de protection de la nature se créent, en particulier en Bretagne. Et puis, ces initiatives fédère dans un mouvement international de protection de la nature qui est créé donc en 1948 sous l'égide de l'UNESCO, c'est l'UIPN, sur laquelle je reviendrai. Toutes ces associations locales, nationales, transnationales se dotent d'un volet éducatif. Elles veulent créer dans la population française, voire à l'échelle mondiale, une culture naturaliste, considérant que pour protéger la nature, il faut l'aimer, et que pour l'aimer, il faut la connaître. C'est un petit peu le raisonnement qui est le leur. On peut le voir en particulier à travers les travaux de Rémi Luglia sur la société d'acclimatation et sur en particulier sa déclinaison En 1912, la Ligue, enfin sa déclinaison, sa création, son émanation à partir de la société d'acclimatation, de la Ligue pour la protection des oiseaux, qui est créée en 1912. Alors, donc je reprends ici les travaux de Rémy Luglia, des savants pour protéger la nature, hein, ouvrage qui a été publié en 2015. Il montre bien l'évolution, en fait, de ce pan éducatif à la LPO. Quand elle est créée en 1912, le volet éducation vise avant tout à protéger la nature des hommes, et en particulier la nature des oiseaux, à protéger la nature des enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants sont accusés de manière récurrente au XIXe siècle, et peut-être avant, vous me direz, d'être des dénicheurs de nids. Hein. Et donc, dans la perspective utilitariste, agricole utilitariste de l'époque, la LPO vise avant tout à instruire les enfants pour qu'ils apprennent à distinguer les oiseaux utiles des oiseaux nuisibles pour l'agriculture. Et par exemple, donc là on remonte un petit peu, hein, dans cette affiche donc de 1921. Il y a le slogan donc interdisez à vos enfants de chercher les nids. Hein. Donc les enfants sont avant tout vus comme une menace contre les oiseaux. Donc ça c'est une première chose. Et puis dans l'entre-deux-guerres, Rémy Luglia nous explique que la protection des oiseaux se dote d'une dimension morale, esthétique, en particulier sous l'influence de femmes qui prennent des responsabilités au sein de la LPO, et en particulier sous l'influence d'Alexandrine Feuillet-Billot, dont je n'ai pas dû mettre le nom, qui fait campagne, par exemple, contre l'aveuglement des pinsons chanteurs qui était pratiqué dans le nord de la France et qui est dénoncé désormais pour sa barbarie. C'est-à-dire que désormais, la sensibilité des oiseaux est mise en avant et leur dimension d'être sensible est reconnue. Et donc, sous l'influence d'Alexandrine Feuillet-Billot, notamment, il y a des actions protection des oiseaux au sens du care, hein, c'est-à-dire on nourrit, on abrite, on favorise la reproduction des oiseaux, en particulier en installant un réseau de refuges à partir de 1921. Toutes ces initiatives donnent de la place aux enfants via les femmes et via donc cette approche sensible de la protection des oiseaux. Donc on est davantage dans une approche de la société de protection des animaux qui est ancienne, hein, qui a été fondée en 1845. Voilà, donc après 1945, il y a cet héritage à la fois donc de formation des enfants à une connaissance naturaliste des oiseaux et à une approche des oiseaux comme êtres sensibles. D'autres initiatives, d'autres associations se mettent en place, en particulier la société donc bretonne qui est un modèle d'association de protection de la nature, la société pour l'étude de la protection de la nature, pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne, eh bien elle aussi se dote d'un pan éducatif. Elle développe donc des actions qui sont censées éveiller le goût de l'étude, le goût de l'observation de la nature pour susciter là encore son amour. Hein. Autre exemple associatif, c'est le. Alors, dans un autre. Un autre ordre d'idées, ce sont les clubs des jeunes amis des animaux qui sont fondés, le club des jeunes amis des animaux qui est fondé donc par un jeune garçon qui s'appelle Jean-Claude Steiger et qui s'inscrit plutôt dans la filiation de la protection des animaux, puisque il développe donc à son échelle en région parisienne des actions de sensibilisation pour reconnaître et appliquer le droit des animaux domestiques, animaux sauvages. Et dans mes recherches sur archives, je suis tombée en particulier sur ce matériel de sensibilisation, donc un 45 tours qui est diffusé en 1968 avec donc une notice explicative qui présente donc cette collection chouette qui est inaugurée par ce 45 tours donc qui a avec plusieurs titres dont une chanson qui s'intitule D'où viens-tu beefsteak qui rend hommage à un industriel de la viande qui respecte le droit des animaux, donc c'est assez atypique. Mais dans la quatrième de couverture de ce 45 tours, Jean-Claude Steiger explique bien, je cite, que les jeunes s'engagent à propager le respect de la nature et de toute vie, à être disponibles pour secourir les plus faibles qu'eux. Donc on est dans une démarche de solidarité, une démarche humanitaire qui est une autre sensibilité existante. Du côté des institutions, il y a également un début de réflexion sur ce que doit être l'éducation à la nature. On le voit en particulier chez le directeur général des Eaux et Forêts, François Merveilleux du Vigneault, qui, en 1953, appelle tous les conservateurs des Eaux et Forêts à développer, je cite, une propagande active en faveur de la protection de la nature et demande aux ingénieurs qui font des cours dans les écoles normales, d'inclure, je cite, dans leur programme d'enseignement, une leçon spécialement consacrée à développer cette notion de base qu'est le respect dû aux choses de la nature. Et donc, François Merveilleux du Vigneault qui s'intéresse à ces questions de sensibilisation donc des enfants via les instituteurs au respect de la nature, jouera un rôle important dans l'élaboration de la loi sur les parcs nationaux en 1960, et il y aura tout ce pan éducatif dans la mise en place des parcs nationaux. Au Muséum d'histoire naturelle, il y a également une réflexion sur ce que doit être l'éducation à la nature à un moment où, sous la direction de Roger Haim, il y a une très grande conscience des dangers qui pèsent sur la nature. Roger Haim publie Destruction et protection de la nature en 1952. Il met en place une exposition intitulée L'homme contre la nature au muséum en 1955. Il anime des émissions radio en 1950 intitulées Protection de la nature sur la chaîne nationale. Et donc, voilà, au muséum, il y a toute une réflexion sur cette sensibilisation du public aux questions de la protection de la nature. Après, ce muséum se dote d'un service spécialement dédié aux questions de conservation de la nature à partir de 1962. Quelles sont les actions pédagogiques concrètes qu'ils mettent en place ? Il y a dans les archives du muséum un certain nombre d'annonces de mesures éducatives en direction du public scolaire, mais en tout cas à ce stade de mes recherches, je ne vois vraiment de matériel pédagogique à disposition que dans les années 1970, dans une séquence historique qui est différente et dans laquelle l'association Jeunes et Nature que je vais vous présenter joue un rôle important. 1967, c'est la création des parcs naturels régionaux qui sont là pour dynamiser, redynamiser les espaces de la dite diagonale du vide. Et dès leur création, il y a une mission d'animation, un personnel d'éducateur qui est prévu. Ce sont les conseillers techniques et régionaux de plein air qui doivent sensibiliser donc le public et en particulier les enfants aux questions de reboisement, au respect donc de la faune, de la flore. Et on le verra, les parcs naturels régionaux accueillent donc des classes nature et ça va être donc un mouvement d'ampleur mais plutôt à partir des années 1970. Toujours dans cette veine naturaliste, l'UIPN, on peut se poser la question du rôle que joue cet organisme transnational donc dans ces questions éducatives. Dès 1951, l'UIPN se dote d'une commission de l'éducation. Elle et la réflexion dans les années 50-60 porte sur le choix d'un matériel iconographique de propagande, hein, c'est le terme de l'époque. Et donc, dans une archive indirecte, j'ai trouvé la mention de vignettes, de légendes, de slogans sur des bâtons de chocolat, de slogans qu'on pourrait mettre sur des cahiers d'écoliers. Donc des moyens relativement dérisoires. Et puis l'UIPN rapporte dans son premier bulletin de 1952 une initiative lancée en Italie. Donc je vous la rapporte. Il s'est agi de donner une leçon au moins une fois par an sur la protection de la nature. Et je cite, un feuillet illustré destiné aux élèves apporte à ces derniers, sous une forme simple et condensée, quelques slogans élémentaires propres à frapper leur imagination. Donc l'UIPN se soucie de ces questions avec des moyens qui sont quand même relativement limités. On est plutôt sous la forme d'expérimentation hein, dans les années 1950. Mais avec cette conviction, je cite, que les adultes sont ce qu'ils sont. Et il est généralement bien difficile de changer quelque chose à leurs préjugés ou à leurs égoïsmes. Il n'en est pas de même pour les enfants. Et à cet égard, le rôle de l'école est évidemment prépondérant. Hein. Donc il y a toujours ce levier des enfants pour finalement diffuser une sensibilité protectrice à l'ensemble de la population, donc les enfants comme intermédiaires. Voilà, donc vous voyez, les années 50-60, on est dans une perspective avant tout d'instruction, de sensibilisation, mais plutôt dans une perspective voilà, d'instruction et non, non militante, avec des moyens relativement dérisoires. Dans le contexte de forte urbanisation, de transformation des modes de vie, de cette France des Trente Glorieuses, la sensibilité naturiste est également très présente, avec l'idée selon laquelle une hygiène de vie fondée sur la sobriété dans l'alimentation, dans aussi l'importance de la culture physique permettrait de maintenir un lien entre la nature et les enfants, lien qui a été donc perturbé par cette vie en ville et les pollutions qui se multiplient. Nous sommes donc dans cette veine naturiste héritée donc du 19e siècle et déclinée en particulier par les frères Durville entre deux guerres dans des dans une revue, La Vie Sage, et dans des initiatives de développement des activités de plein air, donc dans deux lieux, Physiopolis et Héliopolis, nous sommes dans les années 30. Et donc, il y a cette filiation dans l'après-guerre. Cette filiation, on l'observe tout d'abord dans la politique de l'éducation nationale qui, depuis le Front populaire, loue les vertus des activités de plein air. Hein. Léo Lagrange, déjà, en 1936, avait instauré la demi-journée de plein air à l'école. Vichy prolonge cette politique hein, dans la perspective d'une fortification de l'homme nouveau. Et il n'y a pas de rupture avec le Conseil national de la Résistance qui crée une commission plein air en 1946. Donc ces bienfaits du plein air, considérant que voilà, ça régénère les corps et les esprits, ces bienfaits du plein air sont transcrits en 1950 dans une circulaire du bulletin officiel du ministère de l'Éducation nationale qui définit les activités de plein air comme étant des activités qui n'ont pas pour objectif essentiel la participation à des compétitions, mais qui constituent un moyen à la fois éducatif et sportif d'utilisation des loisirs. Donc ski, alpinisme, spéléologie, canoë-kayak, navigation à voile, camping, cyclotourisme. Faisant appel à l'esprit d'aventure et de découverte aussi bien qu'aux qualités physiques, ces activités développent chez les pratiquants à un haut degré la volonté, l'endurance, le sang-froid, le sens de la solidarité. Elles constituent en outre une merveilleuse détente, après de longues journées de travail. Donc il y a toutes les vertus morales qui sont attachées à ces activités de plein air qui habitent donc des expérimentateurs donc dans l'après-guerre. Une expérience pilote est en particulier menée en région parisienne à Vanves par un médecin qui s'appelle Max Fourestier qui expérimente un mi-temps pédagogique et sportif au tout début des années 1950, et puis qui expérimente avec ses classes des classes de neige en 1953, des classes de sieste en 1957 et des classes de forêt en 1959, et propose des classes de nature à la fin de cette décennie 1950. Cette expérimentation des classes de neige, des classes de nature s'inscrit dans, encore une fois, dans les 30 glorieuses, entre guillemets, avec donc dans un contexte de développement du tourisme de masse, de démocratisation de l'accès à la mer et à la montagne. Ces expérimentations s'inscrivent aussi dans un renouvellement de la pédagogie. En 1962, Robert Debré et Daniel Douady, tous les deux médecins, non, c'est pas là, où est-ce que je l'ai mis ? Je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis sur la diapo. Robert Debré, que vous connaissez, et Daniel Douady avec un Y à la fin, rendent au Conseil de la recherche pédagogique du ministère de l'Éducation nationale un rapport sur la fatigue des écoliers français dans le système scolaire actuel. Et ils dénoncent le caractère très abstrait, rébarbatif de l'enseignement scolaire. Et appelle donc à un renouvellement de la pédagogie. Et donc, ces classes expérimentales sont vues comme un moyen, justement, aussi de diversifier l'enseignement proposé aux enfants. Et en 1957, un arrêté ministériel encadre ces classes expérimentales dont le fonctionnement est ensuite précisé en 1958. Et donc à partir de 1958, les classes de neige vont se multiplier. On passe donc avec donc aussi vont se multiplier, se diversifier hein, sous forme de classes de mer ou de classes d'air pur. Et en 1953, donc, ces classes expérimentales bénéficient à 32 élèves. En 1968, elles bénéficient à 20 000 élèves. Hein. Donc, on voit qu'il y a une démocratisation de l'accès à ces classes de neige qui, là encore, sont vues comme... ne sont pas simplement considérées comme vertueuses pour les connaissances qu'elles apportent, mais aussi pour les vertus morales et sociales qu'elles drainent. On le voit dans cette citation tirée donc de la direction de l'enseignement en 1969. L'étude du milieu, la découverte de la nature et l'initiation sportive sont par ailleurs autant d'éléments positifs qui ajoutent à la chaude camaraderie de la montagne. Hein. Donc il y a aussi cette idée que le milieu naturel doit réveiller des vertus sociales. Voilà, donc une diversification de ces classes de classes de nature qui deviennent classes vertes en 1971. Qui deviennent classes de nature en 68, classes vertes en 1971. Du côté du ministère de Jeunesse et Sport, il y a également des initiatives qui sont prises pour favoriser les loisirs de plein air, en particulier sur l'initiative de Maurice Herzog, qui est un alpiniste de renom et qui joue un rôle important dans cette dynamique de jeunesse et sport. En 1963, il met en place une commission des loisirs de plein air qui est placée sous la présidence de l'explorateur des pôles Paul-Émile Victor. Et en 1964, un rapport de l'air pour vivre donc justifie le soutien de Jeunesse et Sport à tout le réseau d'éducation populaire en ce sens. Voilà. Pour ces prémices donc de la première période. Je savais que j'avais prévu trop long, mais là, ce sera vraiment... Je vais essayer de décourter. On a commencé à 40... Il me reste un quart d'heure, hein, c'est ça ? Environ 20 minutes. Bon. C'est ça. Si je m'autodiscipline, c'est ça, je crois. Bref, donc, deux grands courants, vous l'avez compris, qui réfléchissent à ces questions d'éducation à la nature, un courant naturaliste, un courant plutôt naturiste, qui loue les vertus du plein air. Dans les années 1970, on passe des préoccupations de protection de la nature aux préoccupations plus larges que l'on peut considérer comme étant des préoccupations environnementales. Alors, il se passe beaucoup de choses dans ces années 70 pour cette sensibilité environnementale. Je voudrais me concentrer sur une association qui a le mérite d'avoir été étudiée par mes soins et qui a un autre mérite, c'est qu'elle est assez emblématique justement du rôle du passage de cette thématique à l'autre. Les années 68, ce sont des années où les associations de protection de la nature sont de plus en plus nombreuses, sont de plus en plus influentes. Elles se fédèrent, on l'a dit, en 1968 dans une fédération. La fédération donc des sociétés de protection de la nature. Et nous sommes dans une séquence historique aussi où la catégorie sociale des jeunes s'émancipe du reste de la société. Ces jeunes prennent des initiatives, s'approprient non seulement leur propre culture, mais aussi leur propre lutte, et ça vaut pour les questions environnementales. Jeunes et Nature, c'est une association qui est initiée par des jeunes et qui montre bien justement ce moment de bascule. Non seulement en termes de génération, mais aussi en termes de préoccupations environnementales et en termes aussi d'implication de la société civile dans ces questions d'éducation à la nature. C'est une association que j'ai étudiée donc, à partir de plusieurs types d'archives, hein, des archives donc, au fond du ministère du Muséum national d'histoire naturelle. J'ai collecté des témoignages de ses membres aux archives nationales. Un carton sur les bilans, les bilans d'activité de l'association m'attendait, puisque c'est une association qui a bénéficié de l'agrément du ministère en 1971, agrément jeunesse et sport. Et j'ai aussi travaillé sur toutes les incursions de Jeunes et Nature à la télévision, à la radio, à travers donc les archives de l'INATEC. Et puis évidemment, j'ai travaillé sur tous les imprimés disponibles, notamment à la BNF. Voilà, donc Jeunes et Nature, voilà une association qui est créée donc en 1967. Une association de jeunes, par les jeunes, pour les jeunes, qui s'organise en club à l'échelle de la France. Cette association est initiée par des baby-boomers revendiquent d'avoir leur mode d'action propre, leurs préoccupations politiques et sociales propres, et leur manifeste leur dit bien. Ils commencent, on le reverra, sur la jeunesse se révolte. La jeunesse se révolte, c'est parmi ça fait partie de leur slogan, d'un intertitre de leur manifeste de 1967. Qui sont-ils, ces fondateurs? Ce sont donc souvent la plupart sont des citadins. Ici, vous avez quelques visages. François Lapoix étant un petit peu à part parce que lui, il est plus âgé et il est déjà maître assistant au muséum. Ce sont donc des jeunes gens qui ont 17-18 ans en 1967, qui sont souvent des citadins, mais qui ont tous un point commun, c'est qu'ils ont eu un espace refuge d'observation de la nature dans leur jeunesse. Une résidence secondaire, une expatriation, la maison des grands-parents. Donc pour Geneviève Cuisset, c'est le Pays Basque. Pour Jean-Patrick Leduc, c'est la Bretagne. Pour Philippe Barbeau, c'est la Normandie. Et pour Roland de Miller, c'est l'Inde qui, donc, pour tous ces citadins, ces espaces ont été formateurs en termes d'éducation naturaliste. C'est une génération de jeunes gens qui a été marquée par des événements marquants. Le naufrage du Torrey Canyon, du pétrolier Torrey Canyon en 1967, l'affaire de la Vanoise, dans laquelle il s'engage en 1969-70. Les Parisiens distribuent des pétitions à la sortie des gares RER. C'est l'année européenne de la conservation de la nature qui marque aussi les esprits. Et puis, c'est un sentiment d'urgence partagée qui a été nourri par la lecture d'ouvrages sur laquelle je pourrais revenir. Avant que Nature meure de Jean Dorst en 1965, La bombe P de Paul Ehrlich en 1967, qui sont des ouvrages d'alerte environnementale. Et donc, dans leur manifeste, toujours le même, il y a cette urgence à agir qui est très prégnante. Ils disent « La bataille pour la conservation de la nature et de ses ressources sera gagnée ou perdue au cours des 10 ans à venir. » Donc, ils se donnent 10 ans pour changer les choses et pour sensibiliser les membres de leur association. C'est une association qui a des parrains de renom parmi les protecteurs de la nature. L'association est est créée comme section jeune de la SNPN, la Société nationale de protection de la nature. Elle est reconnue aussi section jeune de LPO, de la Ligue pour la protection des oiseaux. Et il y a des liens très forts avec le service de conservation du muséum qui leur donne les moyens matériels d'exister. C'est une association qui est aussi soutenue, encouragée par les ministères. Elle est agréée par le ministère Jeunesse et Sport en 1971 comme association d'éducation populaire, reconnue d'utilité publique par le ministère d'Éducation nationale en 1972. Donc c'est une association qui... j'aurais pas le temps de le dire, mais va avoir un rôle important d'intermédiaire entre la jeunesse et les ministères sur ces questions d'éducation à la nature. Et il y a un certain nombre d'instances au début des années 70 qui réfléchissent aux moyens justement à mettre en œuvre pour répandre cette éducation à la nature à l'échelle du territoire. Donc c'est un réseau de clubs, donc les membres sont invités à fonder leur club. Ça représente, il y a sur le territoire français 320 clubs en 1971, 500 clubs en 1974, 6000 adhérents en 1974. Alors, la cartographie de ces clubs, elle est difficile d'en rendre compte de manière précise, mais on sait qu'il y a une très forte dynamique au Pays Basque, dans le Jura, dans le Loiret, au Loir-et-Cher, en Gironde, dans la Nièvre, mais également voilà, des clubs en Loire-Atlantique, en Ille-et-Vilaine, donc en Bretagne, et dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. Concrètement, ces clubs mènent des opérations d'entretien des forêts, des mares, des campagnes de dépollution. Et puis, il y a tout un pan de leur activité qui porte sur des actions de sensibilisation. Donc, ils mettent en place des expositions, ils organisent des conférences en invitant des professeurs du muséum, des représentants des associations de protection de la nature à faire des conférences donc pour donc diffuser ce savoir et sensibiliser aux questions de protection de la nature. Donc comme toute association, ils ont leur assemblée générale. En 1974, c'est à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y a un reportage de FR3 qui m'a permis de faire ces copies d'écran. Ils ont leur logo. Donc il y a toute une identité de jeunes et nature qui se forge. Leur brochure... ils ont un bulletin. Ici, vous avez la couverture donc, du numéro 17 d'octobre 1973. Je ne la retrouve pas. Et donc, ils diffusent tout un matériel de sensibilisation. En particulier, donc cette brochure qui est souvent citée dans les ministères comme un exemple à suivre. Que pouvez-vous faire pour la protection de la nature ? Et donc c'est créé, donc cette brochure est diffusée à partir de 1970. Et il y a vraiment des exemples d'actions concrètes, c'est-à-dire il y a un code de comportement dans la nature, 26 règles à respecter. Donc, par exemple, si vous avez un jardin à la ville ou un terrain à la campagne, comment faire pour attirer les oiseaux, les insectes, en plantant ceci et donc, il y a un certain nombre de conseils de jardinage. Et puis, il y a vraiment des conseils de réforme du mode de vie, vraiment des préconisations pour un nouveau style de vie. Consommez moins. Refuser d'acheter des produits emballés, recycler les déchets, jeter moins, covoiturer, utiliser du savon sans ou avec faible teneur en phosphate, pas de pollution sonore avec sa mobilette, limitation des naissances, etc. Donc on voit ce qui est intéressant dans ces préconisations et dans ces invitations, on voit qu'on n'est plus du tout simplement dans une instruction naturaliste, mais qu'il y a une dimension environnementale, une des préoccupations qui sont clairement politisées et dépasse le simple cadre de l'éducation à la nature. On est vraiment dans une éducation militante, forger des êtres nouveaux et les initier aux enjeux nouveaux qui sont les enjeux environnementaux. Alors peut-être... Et donc ils ont un bulletin, ils ont beaucoup d'actions. La question que l'on peut se poser, c'est quelle représentation de la nature véhicule-t-il dans ces années 1970 ? Il y a tout d'abord l'idée qu'il faut retisser des liens entre les humains et la nature, des liens qui auraient été rompus par la société moderne. Et donc, il y a déjà leur approche de la nature est une approche donc qui oppose les hommes à la nature. Dans leur manifeste toujours en 1967, ils écrivent « L'homme va-t-il se détruire lui-même en détruisant la nature ?» Ils parlent de capital nature, et là on est vraiment dans la ligne, dans la droite ligne donc des travaux et des alarmes scientifiques de Roger Heim. Qui pose la nature comme un donné divin, hein, un don divin qui aurait été légué aux hommes sous une forme harmonieuse, et que l'homme, comme apprenti sorcier, comme homme prométhéen, serait venu détruire, déséquilibrer. Une approche sensible de la nature avec... toujours néanmoins cette approche naturaliste, il faut observer pour apprendre, apprendre pour aimer. Et donc Jeunes et Nature est très insiste beaucoup sur la nécessité d'organiser des sorties dans la nature pour mieux connaître le vivant, l'observer, l'écouter. En respectant une certaine déontologie. Par exemple, Jean-Patrick Leduc m'expliquait que il refusait de visiter certaines mares en région parisienne parce que justement les troupeaux de classe venaient détruire l'équilibre des écosystèmes et que ils avaient cette sensibilité. Au-delà de cette approche naturaliste, est-ce qu'il n'y a pas une approche sentimentale ? Si, clairement, une approche sentimentale aussi de la nature, dans leur manifeste. Il s'agit donc, disent-ils, connaître pour mieux aimer, de connaître mieux la nature pour l'aimer plus, aimer la nature pour la conserver mieux, conserver la nature pour conserver la vie. Et dans leurs références, il y a de manière récurrente des mentions, des écrits de Jean Giono. Par exemple, la société construite sur l'argent détruit les récoltes, détruit les bêtes, détruit les hommes, détruit la joie, détruit le monde, détruit la paix, détruit les vraies richesses. C'est une citation donc que Genofa Cuisset donc rapporte dans Jeunes et Nature en 1970. Et c'est en effet cet attachement sentimental à la nature qui prévaut dans leurs actions de sensibilisation. Il y a une sensibilité également esthétique avec un parti pris poétique. C'est le jeune Pierre Le Baïf qui, dans une émission à la télévision, exprime le sentiment suivant, hein, « Malheureusement, notre monde ne comprend plus la poésie des paysages ». Et donc, pour terminer, puisque je n'aurai pas le temps d'aller plus loin, il me semble intéressant de mentionner cette initiative de Philippe Barbeau, qui deviendra un grand ingénieur du son, qui travaillera pour... qui sera notamment l'ingénieur du son du film Microcosmos, et qui est tout jeune dans les années 70, et qui, donc en 1977, lance la collection Les paysages sonores, qui se décline donc en 45 tours et en cassette audio. Le but étant d'éduquer l'oreille des tout-petits, dès la maternelle, aux ambiances sonores des différents milieux naturels, en partant du constat que l'oreille moderne est devenue incapable d'écouter le monde qui l'entoure. Donc, voilà ce qu'on peut trouver sur donc dans le manuel pédagogique qui accompagne le numéro 4 de cette collection de 45 tours. À l'heure des menaces permanentes d'agressions militaires, des mises en garde, des constats sur l'avance du désert, sur les pollutions, quelles forces nous poussent à réaliser et éditer les paysages, la collection Paysages sonores ? À 60 ans, les Africains ont une ouïe aussi bonne, sinon meilleure que la moyenne des Nord-Américains de 25 ans. Le docteur Samuel Rosen, ontologiste new-yorkais, explique l'acuité auditive des Africains par le calme de leur environnement. Et pourtant, on connaît la richesse des ambiances sonores naturelles africaines. On peut s'étonner de l'emploi du terme « calme ». Face à l'intensité croissante du bruit environnant, l'homme moderne réagit en l'ignorant. Il a appris à ne plus écouter. Lorsqu'il retourne dans un milieu naturel possédant encore une certaine richesse sonore, il ne sait plus, il ne peut plus en prendre conscience. Face à cette infirmité, la collection Paysages sonores se propose de contribuer à l'éducation de l'oreille chez les jeunes enfants. Voilà, et donc cette collection cherche à rééduquer finalement l'oreille des jeunes enfants. Bien, alors, je passe sur un certain nombre, je passe sur la fin de cette communication pour nous laisser le temps de la discussion. Ce que j'aurais voulu vous expliquer dans un troisième temps, c'est que l'initiative de Jeunes et Nature est assez représentative d'autres initiatives qui naissent dans les années 1970 et qui visent donc à réfléchir aux moyens de mettre l'environnement au cœur des préoccupations éducatives, à l'école comme dans les activités dites de plein air, et donc qui vont devenir les activités d'animation nature. Et donc ce fourmillement d'initiatives a des répercussions aussi à l'échelle donc des ministères et des initiatives publiques. Dans les années 1970, toute une réflexion est menée sur la place que doit occuper l'environnement dans les programmes scolaires. Pour dire les choses un peu rapidement, plusieurs questions sont discutées au ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que l'environnement doit devenir une discipline ou est-ce qu'on doit distiller l'éducation à l'environnement dans l'ensemble des disciplines scolaires ? Comment former les enseignants de sciences naturelles, de géographie et de physique-chimie étant les plus à même de comprendre et de transmettre ces questions ? Quelle place donner à l'éducation dans l'environnement ? Est-ce qu'il faut systématiser les classes de nature ? Est-ce qu'il faut les démultiplier ? Et puis, autre question fondamentale, à qui revient cette éducation à l'environnement ? Est-ce que c'est à l'école de la prendre en charge ? Est-ce que c'est aux associations d'éducation populaire ? Tout ça, ce sont des questions qui sont débattues, qui débouchent sur des initiatives. Dans le domaine scolaire, la circulaire ABI de 1977 inscrit l'éducation à l'environnement dans les programmes scolaires. Mais avec donc la mission, je cite, d'apporter aux élèves dès leur plus jeune âge et tout au long de leur scolarité une formation qui leur permette de saisir les problèmes de l'environnement de façon intelligente et constructive. Mais dès le début, la réponse à la question, voilà, est-ce qu'il faut créer une discipline environnement est très vite évacuée. Hein. On décide qu'il n'y aura pas de, enfin, que ce sera un enseignement distillé dans l'ensemble des enseignements disciplinaires préexistants. Du côté de jeunesse et sport, eh bien, on, on, on multiplie en particulier les centres permanents d'initiation à l'environnement, les CPIE. Alors j'aurais voulu vous diffuser un petit film sur le CPIE de Bagnères de Bigorre en 1977, mais vous pourrez le retrouver dans le PowerPoint. Enfin bon, il y a différents moyens de vous le transmettre. Et puis, il y a une professionnalisation des animateurs nature à partir des années 1980 dans des réseaux d'associations, en particulier les clubs Connaître et protéger la nature, et puis les graines, le premier étant celui d'Île-de-France en 1985. Voilà, donc en conclusion, même si voilà, tout n'a pas pu être dit, il y a trois grands moments dans cette histoire de l'éducation à la nature au second XXe siècle. Les années 50-60, qui sont un moment d'éducation naturaliste, assez confiné au milieu scientifique et assez élitaire, hein, qui touche finalement évidemment peu d'enfants. Les années 1970 sont un moment militant d'intégration de l'environnement dans une démarche civique, avec toutes les questions donc, que j'ai synthétisées à l'instant. C'est vraiment un moment des possibles, un moment où donc aussi les autorités publiques prennent en charge ces questions et injectent malgré tout quelques budgets pour la soutenir. Et puis, dans les années 1980, les années 1990, on arrive à un temps d'institutionnalisation de l'éducation relative à l'environnement. C'est aussi, d'un point de vue du contexte, le moment du développement durable, hein, qui est défini par le rapport Brundtland en 1987. Et donc cette institutionnalisation, cette intégration d'éducation relative à l'environnement, au fonctionnement à la fois de l'animation nature et des programmes scolaires, a tendance aussi à tuer l'esprit militant qui était très vivace dans les années 1970. L'éducation à la nature est réduite à la portion congrue, il faut bien le dire. Et donc, il y a une certaine banalisation de cette éducation relative à l'environnement. Et donc, en 1972, lors d'un colloque, un grand colloque à Aix-en-Provence sur l'éducation et l'environnement, se posait la question suivante. Peut-on, je cite, hein, raisonnablement penser que, compte tenu de l'inertie des systèmes scolaires, une éducation où l'environnement serait au centre des préoccupations de tous, est-ce que ce sera un jour possible? La plupart des militants des années 68 vous répondront que ce jour n'est pas encore advenu. Voilà, donc je suis désolée d'avoir dû réduire cette présentation.